Sur France Inter.
Moi, je suis un joueur de golf, je joue au golf. Alors, je veux que le golf demeure le golf, c'est tranquille.
Épisode 8. À Montréal, la guerre des golfs.
Nous sommes en 1850. Et là, les banquiers de l'époque, les commerçants de New York, s'adressent à la ville de New York. Ils disent « Il est temps que la municipalité ouvre un grand parc, un vrai parc, qui sera sain pour le divertissement du peuple, pour les éloigner de l'alcool, du jeu et des vices, et les éduquer aux bonnes mœurs et à l'ordre. » 1850. Écoutez, si ça a permis la création d'un parc extraordinaire, moi, j'accepte sans aucun problème. Il est temps d'un nouveau parc urbain au centre de la ville, pour retrouver le plaisir des instants de loisirs, pour l'environnement, l'éducation, la santé publique et le mieux vivre ensemble. Il est temps d'un nouveau parc public pour tous.
Bonjour à toutes et à tous. Alors avons-le tout de suite, le titre est peut-être un peu accrocheur. Mais c'est une bataille somme toute assez pacifique que cette guerre des golfs autour de Montréal. On est même loin des golfs français sabotés l'été dernier parce qu'ils arrosaient leurs greens en pleine vague de sécheresse. Au Québec, c'est presque un cas d'école ou une fable sur comment on fait concrètement, après les grandes déclarations, pour restaurer la biodiversité et préserver 30% d'espace naturel. Car avec ses 4 300 000 habitants, la communauté métropolitaine de Montréal a peu d'espace vert pour un intense étalement urbain, avec son lot d'artificialisation des sols, pollution et gaz à effet de serre, le tout sur fond de changement climatique et de recul de la biodiversité. Alors pour gagner du vert, ne reste plus que quelques terres agricoles et des golfs plus ou moins rentables. Or, les autorités ont décidé à l'automne dernier de préserver 9 golfs de l'appétit des développeurs de lotissements, les condos comme on les appelle ici, comme à Belleuil, Candiac et Rosemère où nous allons passer cette heure. Et loin d'être des riverains égoïstes, ces résidents veulent au contraire transformer ces domaines privés en espaces publics ouverts à tous, y compris à la faune et à la flore locale, quitte à lutter contre les appétits des promoteurs. Quand les Montréalais veulent du vert, portraits de voisins qui se bougent pour gagner de la nature sur le béton, mais qui se prennent aussi à rêver, à habiter la ville autrement. La guerre des golfs à Montréal, un reportage réalisé par Clément Nouguier, qui commence en musique, avec À la claire ensemble, qui nous donne des leçons de recyclage. Mets du respect dans ton bac.
À l'époque, en 2020, on a coupé des arbres à proximité du ruisseau parce que les arbres faisaient de l'ombre pour les joueurs de golf.
La nature, ça ressemble pas à un golf.
Et alors vous êtes un golfeur, monsieur?
Oh non, pas du tout.
Le golf, c'est pour jouer au golf, c'est pas pour se promener.
Sans fâcher, toutes ces belles matières recyclables souillées. Les employés du centre de tri finissent toutes mouillées. Oh my God. Comme faut, comme c'est le monde de regard. Oh oh! Mets du respect dans ton bac. Check ce qu'il y a dans ton bac. T'as perdu ton bac. C'est qui est ton bac? Watch ton bac. Back. Mets du respect dans ton bac. Dans ton bac. Fais attention qu'elle se met. Tu pensais que c'était ça que c'était, mais ça allait aux poubelles. Une fois par semaine, les gars de la ville ont ton bac. À la base, c'était manature qui invente. Ça l'arrive de partout, ça l'arrive de plein de places. Mélangez donc pas tout, moi je trouve que c'est dégueulasse. Wesh! Changer des mauvaises habitudes, on dit pas, je suis pas capable.
Metal vert plastique, carton papier daté. Metal vert plastique, carton papier daté.
Metal vert plastique, carton papier daté. Metal vert plastique, carton papier daté.
Cantiac, Chambly, Belleuil, Rosemère, Terrebonne et Mascouche. Des terrains qui totalisent 284 hectares en milieu urbain où les espaces verts se font de plus en plus rares.
Sur France Inter, je reviens du monde d'avant.
Toutes ces belles matières recyclables souillées. Les employés du centre de tri finissent toutes mouillées. Oh my God. Fais ça comme faut, comme si le monde te regarde.
Mets du respect dans ton bac.
Check ce qu'il y a dans ton bac.
T'as perdu ton bac. C'est qui ton bac? Moi j'ai ton bac.
Give and deal.
Ah, nous voilà au grand air. Et dites donc, c'est bien ici là.
Mais oui.
Moi j'ai pris des voies d'autoroute autour de Montréal, etc. On a traversé le fleuve. Et puis on arrive dans un petit quartier résidentiel. Mais là, juste derrière chez vous, nous voilà dans un grand parc. C'est un jardin public ou c'est le golf déjà?
Ça, c'est le golf.
Ça, c'est le golf. Et en fait, ça fait un super genre grand parc. Là, moi, j'ai l'impression d'être au bois de Boulogne ou au bois de Vincennes à Paris.
C'est pour ça que ça vaut la peine de le préserver, de se battre pour le garder. Je m'appelle Marie-Ève Laforte. Je fais partie d'un regroupement citoyen à Candiac, en banlieue de Montréal. Et ça fait plusieurs années qu'on se bat pour transformer l'ancien golf en grand parc nature dans lequel tous les citoyens pourraient se promener.
Moi, je suis Catherine Vallée. Je fais partie du même regroupement citoyen. Moi, je ne suis pas riveraine du golf. Moi, je suis biologiste, en fait. Ma mission première est plus de préserver des espaces verts pour leurs effets écologiques positifs.
Et là, on voit un petit écureuil là, qui est en train de courir.
Oui, il y en a beaucoup.
Le club de golf de Candiac a fermé ses portes en 2019. C'est maintenant un promoteur immobilier qui en est propriétaire, alors que plusieurs citoyens veulent à tout prix préserver cet espace vert.
Le golf existe depuis la fin des années 50. Et puis, la ville s'est développée tout autour. Donc, le golf s'est retrouvé enclavé complètement dans la ville. Donc, ça fait vraiment partie intégrante de la ville. C'est l'endroit, un des endroits où il y a les arbres les plus matures. Où,
là, on voit un beau saule pleureur, là. Quelques bouleaux.
Oui, il y a quand même une bonne biodiversité pour un milieu urbain.
Il y a beaucoup de terrains de golf dans la grande région de Montréal, ce qu'on appelle la CMM. Là. 69 golfs en activité présentement.
69 golfs pour 3,5 millions d'habitants.
Puis là où il y a un enjeu, c'est que le golf est moins populaire qu'il était.
En fait, la pratique du golf a beaucoup diminué.
Et... Ah bon? Moi, je croyais que c'était la mode en France. Par contre, tout le monde veut faire du golf et que c'est un signe d'élévation sociale, vous savez.
Bien, c'était un peu ça. Ici, on est dans une ville quand même où les gens sont assez aisés parce que c'est quand même un sport qui est assez dispendieux. Mm. Mais la tendance générale est que les jeunes ne pratiquent pas beaucoup ce sport-là. Donc, la moyenne d'âge des golfeurs, apparemment, est autour de 60-61 ans. Donc,
golfeur senior.
Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que les terrains de golf sont plus rentables.
Donc, les golfs ferment et ben, il y a des promoteurs immobiliers qui veulent développer ça. Hein. Il y a une valeur à créer sur ces terrains-là.
Ces grands terrains-là qui se libèrent parce qu'ils ne servent plus de golf, ben, ils deviennent très attirants parce que ce sont presque les derniers grands terrains qui restent à moins de développer dans les terres agricoles.
Bien, il y a beaucoup de citoyens un peu partout qui se disent que la vraie valeur à créer, c'est de les garder et de les transformer en parc et non pas tapisser ça de maisons.
En 2019, le golf a fermé. Il a été acheté par un promoteur immobilier.
Le groupe Boda, qui fait de la construction immobilière dans la région ici. Là.
Ce serait probablement un projet immobilier de luxe. Il n'y a aucun gros bon sens lié au fait de construire ici. C'est vraiment seulement la part du gain. Ce que nous souhaitons, c'est de garder le terrain en espace vert à 100 % pour faire un parc.
Faites gaffe, là, il y a des branches, parce que comme le terrain est abandonné, il y a des vieux arbres, des vieilles branches sous des feuilles mortes.
C'est toujours agréable de marcher dans les feuilles comme ça.
Oui.
Il y a une odeur là, un peu âcre, un peu sucrée aussi. C'est très particulier. Puis le bruit est toujours...
Très apaisant. Quoi. Oui, c'est un peu comme ces bruits blancs, vous savez, qu'on met pour relaxer.
Oui. Oui.
Et moi, je trouve ça pas mal, là, parce qu'on est en train de marcher dans les herbes hautes, là, avec des pissenlits qui poussent. Et c'est l'opposé complet de ce qu'est un golf, c'est-à-dire le summum de la nature domptée.
Oui, 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 oui. C'est une expérience assez fascinante d'avoir vu en 3 ans à quel point le gazon et la surface a changé et à quel point la nature est forte. Une prolifération de plusieurs plantes.
Oui, là, il y a même des chardons, là.
Oui.
Là.
Donc,
alors là, on arrive au bout d'une barrière.
Avant, tout était ouvert.
Ah, il y a une route qui passe,
oui,
mais d'un côté et de l'autre,
oui,
il y a une clôture.
Oui.
Ça, c'est la zone où le promoteur veut interdire à qui que ce soit d'aller mettre les pieds maintenant.
Oui, exactement. Parce qu'avant, on pouvait passer d'un côté à l'autre, ce qu'on faisait très souvent.
Moi, j'ai 57 ans. Je suis née à Candiac et je suis toujours venue jouer sur le golf quand les golfeurs n'étaient plus là.
Ah oui.
En fait, c'est un terrain de jeu pour nous, là. Pour moi, c'est mes histoires d'enfance là, qui se sont passées en partie ici. Quoi. Ouais. Pendant longtemps, ils nous ont laissé marcher sur le terrain. Puis à un moment donné, on n'a pas accepté leur projet. Voilà, ils nous ont fermé l'accès comme ça.
Complètement clôturé.
Et vous m'avez dit, on n'y va pas parce que sinon, on risque d'avoir des poursuites judiciaires.
Oui, disons que...
Ouais, on en a eu par le passé, on a fait la mise en demeure. Ça, oui.
Ouais, donc,
c'est-à-dire que vous êtes vues comme des dangereuses éco-terroristes,
mariées
avec Catherine.
Ouais. Le promoteur est la victime, évidemment, ouais. Et nous, on est les
méchants.
Mais je vous avoue que c'est assez rare d'avoir une configuration où les riverains, les résidents, sont alliés avec les pouvoirs publics contre des promoteurs immobiliers.
Mais c'est pas venu tout de suite. Ça a été quand même beaucoup d'années de pression. On a vécu des tempêtes, on a vécu des moments difficiles, des moments où est-ce que on a presque perdu espoir. Mais il y a eu beaucoup d'épisodes, c'est ponctué de rebondissements pendant des années.
Combien d'années de lutte ici à Candiac?
7-8, quelque chose comme ça.
7-8, oui.
Puis il y a des gens là-dedans, depuis 7 ans, ils ont investi des milliers d'heures. Tellement d'engagement, ouais.
Il faut apprendre beaucoup de choses, en fait, quand on est un citoyen militant.
Il faut apprendre quoi? Le droit immobilier, le droit environnemental?
Oui, mais aussi le fonctionnement d'un conseil de ville, par exemple. Ensuite, il faut lire beaucoup de rapports, le droit immobilier, les règles environnementales. On doit être au courant des plans d'aménagement.
Mais Marie-Ève, je pensais, en fait, ce que vous faites là, ce que vous avez appris à faire sur le tas depuis 7 ans, c'est de la politique. La chose publique.
C'est tout à fait ça. Puis c'est facile de se sentir impuissant face à la crise climatique, mais je peux faire une différence sur cet enjeu-là. C'est là où on a un contrôle. C'est derrière chez nous, c'est dans notre municipalité. Donc, moi, c'est le sens de mon engagement. C'est je le fais juste à côté de chez moi en espérant que si tout le monde le fait et se regroupe, bien, le mouvement va faire boule de neige.
Et puis, en fait, on sent, Marie-Ève a dit ça des fois, le vent tourne.
mais c'est vrai, ce qui était vu comme des caprices de privilégiés, et les gens ont compris que c'est non, ça nous concerne tous, ce sont les derniers espaces verts qui restent, donc on se doit de les préserver.
France Inter.
Reconnaissez qu'elles n'ont pas l'air très méchantes, Marie-Ève et Catherine. Pourtant, ce sont maintenant de sacrés lobbyistes. À pétitionner et faire pression sur les différentes instances depuis des années, elles ont acquis une véritable expertise citoyenne. En tout, ce sont les riverains de 22 golfs qui se sont ainsi mobilisés pour peser sur le débat politique au Québec, où 20% des clubs ont fermé ces dernières années et la moitié sont déficitaires. Comme à Belleuil, à l'est de Montréal, où le golf voulait éponger ses dettes en construisant sur une partie de son terrain. Raté, là aussi, les habitants sont organisés et ont même publié un conte illustré, Le Vieux Chêne, l'Arbre et la Ville, pour sensibiliser à leur lutte. Et c'est devant ce chêne qu'Yves Déhaye nous a donné rendez-vous.
Si, en fait, vous avez
aussi des rendez-vous aussi. L'arbre qui est l'origine du conte, le vieux chêne, l'arbre et la ville, ben c'est, il est tout juste devant vous, à peu près à 150 mètres, 200 mètres. C'est notre vieux chêne.
C'est un vieux chêne, mais alors magnifique, quoi, comme dans les gravures un peu.
Oui, tout à fait. Il est vraiment, vraiment magnifique. Il a plus de 300 ans, on dit.
Il a perdu toutes ses feuilles, donc on voit d'autant plus toutes les ramifications.
Tout à fait. Ce grand chêne, finalement, il est là depuis bien avant l'arrivée du club de golf. Ouais.
Voilà, les oiseaux sont de la fête aussi, c'est bien.
Écoutez, mon nom, c'est Yves Deshaies, urbaniste, mais dans ce dossier-là, je suis vraiment essentiellement un citoyen de la ville de Belle-Oeil depuis un certain temps.
Belle-Oeil, c'est à l'est, une trentaine de kilomètres à l'est du centre-ville de Montréal?
Sur la rive sud. C'est une municipalité qui, en 1960, comptait 6 000 habitants. Aujourd'hui, en 2022, on est maintenant rendu à 25 000 habitants. C'est une municipalité essentiellement résidentielle, avec bien évidemment l'automobile comme instrument de développement urbain.
Alors là, il faut le dire, là, pour le coup, autant le golfe, par exemple, de Candillac, il était complètement en friche et presque réensauvagé, autant là, ce golfe de Belle-Oeil, il a l'air tome neuf, quoi. Il est encore en activité, ce golfe, ou pas?
Oui, tout à fait, oui. Et si on peut se déplacer
marchons un peu.
Écoutez, si on peut se déplacer un peu, moi, je trouve ça un peu ironique. C'est pour ça que je voulais vraiment vous donner rendez-vous aussi. Regardez, ça maintenant, on est 25 000 de population. Ça, c'est l'espace vert qui nous est dévolu.
Pour les 25 000?
Pour les 25 000.
C'est-à-dire que c'est un terrain de football?
Ben, c'est tout. Et de l'autre côté de la clôture?
Ouais, juste à l'autre gauche, là.
Pour environ 350 citoyens, ben, vous avez l'espace vert, finalement, qui est essentiellement privatif, et la clôture.
Le golf privé, derrière sa grille.
Oui. Et moi, sincèrement, je me pose la question, est-ce que c'est encore soutenable en 2022?
C'est la suite, nouvel épisode de la guerre des golfs.
Écoutez, moi, je suis un joueur de golf occasionnel.
Ah, quand même, vous l'avouez.
Non, ben écoutez, de temps en temps, il faut bien bouger, finalement, pour maintenir tout ça en état de marche. Mais l'été, quand je cours autour du golf, de ce côté-ci de la clôture...
C'est-à-dire sur le bitume?
Et que je vois, finalement, de l'autre côté, un foursome, comme ils disent. Les quatre joueurs de golf, finalement, qui sont ensemble, qui se baladent délicatement... Je me dis vraiment, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Ouais. Il y a quelque chose... Écoutez...
C'est profondément inégalitaire.
Ben, est-ce qu'on vit ensemble ou finalement on accorde des privilèges à certains citoyens? Il faut savoir que collectivement, là, tous les citoyens de la ville de Belle-Oeil ont contribué depuis 1960, année après année, finalement, à faire en sorte que les amateurs de golf puissent profiter d'un environnement exceptionnel. Nous avons assuré un zonage, finalement, qui permet l'activité du club de golf. Nous accordons toujours des crédits de taxes foncières annuelles aux actionnaires du club de golf. Fait que, collectivement, nous avons posé des gestes pour préserver un espace vert au cœur de la ville. Maintenant, 70 ans plus tard, est-ce que, finalement, il faut préserver la balle blanche ou faire en sorte que ce soit un parc accessible à tous? Moi, je choisis le parc pour tous, l'espace public pour tous. De nombreux citoyens et citoyennes également, les maires au front, se sont engagés. On a fait des marches, des enseignes, un espace vert pour tous. On a fait un conte même, finalement, pour raconter l'histoire d'un chêne qui a envie de se libérer de sa clôture en maille de chêne. Fait qu'on a posé beaucoup de gestes, finalement, pour sensibiliser nos élus. Et finalement, je pense que de l'ensemble de ces gestes-là, ils ont adopté un règlement de contrôle intérimaire pour faire en sorte de préserver les espaces verts pour maintenant 9 terrains de golf.
D'autant que, si j'ai bien compris, ces golfs sont à peu près la seule marge de manœuvre dont bénéficie le Grand Montréal, la communauté métropolitaine de Montréal, pour rentrer dans ses objectifs de 30% d'espace naturel.
Bien, tout à fait. Écoutez, je vais vous faire la lecture, finalement, d'un paragraphe au moment de l'adoption par la communauté métropolitaine de Montréal. L'adoption de ce règlement s'inscrit dans un contexte d'urgence climatique qui exige des actions fortes pour renforcer la résilience du Grand Montréal et répondre aux demandes des citoyens. En effet, selon le groupe d'experts international sur l'évolution du climat, un avenir viable n'est possible qu'en préservant 30 % à 50 % des territoires terrestres, aquatiques et maritimes d'ici 2030. Cette réalité est d'autant plus alarmante qu'il faut désormais agir en milieu urbain et qu'il ne reste pas assez d'espace entièrement naturel pour atteindre ces cibles.
Ça, c'est ce que disent les autorités.
C'est ce que disent les autorités, tout à fait. Notre réponse, elle est claire, elle est nette, elle est en harmonie avec les enjeux du 21e siècle. Il faut faire en sorte que ces espaces verts soient maintenant des espaces publics pour tous. Il y a vraiment l'urgence d'agir. Vous savez, quand on écoute le téléjournal, là, ici comme ailleurs, là, on a l'impression qu'on est un peu entre le Titanic ou Apollo 13.
Hop, ça c'est le gars avec ses lunettes et son casque là qui passe avec sa tondeuse sur le green. Il a le golf pour lui tout seul.
Oui, bien, tout à fait. Et pendant ce temps-là, on a rencontré peut-être déjà 5, 6, 7 citoyens qui marchent autour de la clôture, mais du mauvais côté, finalement.
Eh bien, regardez, justement, il y a deux citoyens qui passent. On va peut-être leur demander leur avis, allez-y, s'ils veulent bien. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Vous êtes de Belœil?
Oui, on reste, je sais pas loin.
Tout près. C'est merveilleux.
Tous les matins, on fait le tour du golf, notre 5 km. Puis l'après-midi,
L'après-midi, on refait une demi-heure. On va jusqu'au bout, on revient.
Parce que là, on marche sur le trottoir, au bord des maisons. Mais est-ce que ça vous aurait pas dit plutôt de vous balader de l'autre côté de la grille, non, le dans golf, le golf?
Le golf, c'est pour jouer au golf, c'est pas pour se promener.
Ah oui?
Moi, je suis un joueur de golf, je joue au golf. Alors, je veux que le golf demeure le golf, c'est tranquille. Malheureusement, c'est trop dispendieux de jouer ici. Je joue ailleurs où c'est plus abordable.
C'est combien ici, là?
Ici, c'est au moins 50 à 60 $ pour jouer, plus le véhicule électrique, 20 pièces, ça fait cher.
Imagine.
3 000 quelque chose. Plus les frais de restauration, 600 à 800 $ plus les frais d'entretien des bâtons, puis tout. Je les entretiens moi-même, mes bâtons.
Non, il va jouer avec ses amis, des golfs à l'extérieur. Ça coûte beaucoup moins cher, puis il est avec ses amis. Puis...
on guette les rabais.
Ben oui.
Si on veut être abonné dans un club, il faut avoir les moyens.
Ouais.
Je n'ai pas les moyens, ça fait que je joue ailleurs.
Mais alors, est-ce que du coup, ça vous fait pas mal au cœur de voir tous ces golfs qui ferment et qui sont transformés en espaces verts?
Oui,
oui.
Ben, ça dépend. S'il n'y a plus de golfeurs, c'est sûr, mais bien souvent, c'est parce que les promoteurs, ils sont avides. C'est des beaux terrains qui sont très bien situés. Puis ils veulent faire du développement de maisons et non pas des espaces verts.
C'est important d'avoir un espace vert avec des beaux herbes matures. Oh. C'est comme le poumon de la ville.
Mais oui, mais c'est pour ça que certains disent, faisons un vrai espace vert. Imaginez là vos petits-enfants là, qui gambadent là et qui font des pâtés de sable dans le bunker.
C'est trop grand.
Non, mais s'ils font un parc, il va falloir que ça soit municipalisé.
Voilà.
Puis la ville n'a pas les moyens de faire ça. Là, ça va bien. C'est une entreprise privée qui entretient notre parc. C'est beau.
Mais on le voit de loin, quoi.
Puis c'est
derrière les grilles.
L'hiver, il est ouvert à tout le monde pour faire du ski de fond.
Oui, l'hiver, les gens se promènent en ski de fond, les enfants...
Bon, moi, non. Moi,
comme ça, c'est parfait.
Le golf, un jeu qui demeure le golf, là.
Oui, oui.
Puis c'est comme ça, là.
Mais là, vous êtes d'accord, semble-t-il, c'est que le fait qu'il faut quand même mettre un peu des bâtons dans les roues des promoteurs.
Bien, c'est sûr.
Oui.
Parce qu'il n'y aura plus de parc à nulle part.
Mais non.
Aussitôt qu'il y a un parc, ils le veulent. Ils ont même pensé de prendre ce parc-là.
Ça va défaire le paysage aussi. Ça sera pas beau, là. Ça sera pas beau, tandis que là...
Ce golf-là, là, l'année prochaine, il va avoir 100 ans. Ça que... c'est quelque chose.
Et alors, vous avez quel handicap, monsieur?
Ah, moi, j'ai... à mon âge, là...
C'est beau qu'il puisse te frapper encore, avec ses épaules, ses bras.
À 80 ans, là, la distance, là, on l'a plus, ça.
Bon, ben, merci beaucoup, messieurs, dames.
Ça fait plaisir.
Bonne journée à vous.
Now, I love to play this game of golf. No need to tell you a lie. But I have an awful handicap. And here's the reason why. That's my little wife.
And you act like a little boy when you learn.
Well, it's good exercise.
Making life is in a rut. All you want to do is putt, putt, putt. Golf, 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 that's all you do.
When I went on my honeymoon, I thought I'd have some fun. Until my bride got real upset 'cause I brought my golf clubs along. She fussed and fumed and then she cried and she said it's either golf or me. So I sent her home to mama and met the fellers on the tee.
Golf, 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 that's all you do. And you act like a little boy when you lose.
Well, I'm a bad loser.
But figure life is in a rut. All you wanna do is putt, putt, putt. Golf, 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 that's all you do.
The last time we had a hurricane, it blew our home in two. My wife inquired as we left the house, what are we gonna do? So I said, now, why do you ask? You know it's plain to see. Rain or shine, I play golf every Saturday. My wife could have asked for anything the first time I shot par. $100 bills or diamond rings or a great big Cadillac car. But instead of taking advantage of a perfect situation, all she did was come back at me with that same old conversation.
Golf, 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 that's all you do.
No, shut up.
And you act like a little boy when you lose.
Drop dead.
On en a parlé à plusieurs reprises. Là. Ce qu'on fait avec les terrains de golf, les clubs de golf là, qui sont fermés.
France Inter.
Qui manque-t-il?
Un animateur pas comme les autres.
Suite de notre reportage à la rencontre des habitants de la banlieue montréalaise qui se mobilisent pour transformer des golfs en jardins publics plutôt que de les laisser à des promoteurs immobiliers. D'autant que par la même occasion, ces riverains aident à remplir les engagements des politiques à sanctuariser 30% d'espaces verts pour le Grand Montréal. Une illustration aussi de la manière dont les questions d'adaptation au changement climatique et de préservation de la biodiversité sont bel et bien en train de se faire une place dans la vie des gens. Comme à Rosemère, cette fois au nord de Montréal, avec un collectif qui s'est trouvé comme mot d'ordre Rosemère Vert. Bref, tout un programme.
Ah, il y a une abeille là. C'est un parking de golf abandonné. À Rosemère, au nord de Montréal, sur la rive nord du Saint-Laurent. Et on voit déjà la végétation qui, depuis 3-4 ans que ce golf est à l'abandon, est en train de pousser à travers les fissures du parking. Petit à petit, ce lieu est en train de se réensauvager. Bonjour.
Salut, enchanté, enchanté. Patrick
Bonnet. On va le faire, ouais, mais là je voulais juste voir ce gigantesque panneau qui bloque la route et qui dit en gros accès interdit, terrain privé, interdit aux chiens comme interdit aux promeneurs.
Donc nous sommes dans la municipalité de Rosemère au Québec, dans ce qui fut l'ancien club de golf de Rosemère.
Rosemère, c'est au nord de Montréal.
Ouais, c'est un 18 trous, plus que centenaire. C'est 60 quelques hectares que ça représente. Donc, c'est très grand.
Et c'est là où je vous retrouve.
Donc, je m'appelle Frédéric Pitt. Je suis professeur et chercheur à l'Institut de recherche en biologie végétale à l'Université de Montréal.
Patrick Bonnet, je suis résident de Rosemère, membre impliqué depuis déjà quelques années pour protéger le dernier espace vert de Rosemère, soit l'ancien golf. J'ai également quelques chapeaux militants autres, dont représentant de Greenpeace Canada pour les enjeux climat-énergie.
On est sur un parking désert. Là, ça doit être le clubhouse par là.
Exactement. Ouais, donc, on se trouve dans l'entrée du golf en ce moment, qui a été placardée. Donc, les propriétaires, qui sont des développeurs, ont acheté le golf. 18 millions, je crois. 12-13 millions d'euros.
12-13 millions d'euros.
Dans l'optique de développer le golf, là.
Mais alors, pour faire du golf ou pour faire du logement?
Non, de développer sur le golf. Donc, de construire des habitations et un quartier ici sur le site.
Sauf que voilà, vous autres les riverains...
Le collectif s'appelle Rosemère Vert.
Vous avez décidé que ça se passerait pas comme ça.
Exactement. Et pas seulement des riverains, en fait, des gens de partout dans la municipalité qui ont à cœur, en fait, la préservation d'un espace vert plutôt qu'un développement résidentiel.
Il faut comprendre le contexte où il n'y en a plus d'espace vert à proximité des gens. Donc, ce genre de phénomène-là, on le voit un petit peu partout au Québec où, malgré la grandeur du territoire, à proximité des villes, les espaces verts sont appropriés par, entre autres, des promoteurs privés qui ont la même dynamique souvent où ils veulent se construire sur ces derniers espaces verts-là. Vous comprendrez que c'est plus facile d'aller développer sur un espace vert que d'aller développer sur un endroit où il y a déjà de l'asphalte et il doit y avoir des constructions. Donc, espace vert, vous arrivez avec l'appel et vous commencez ou presque. Là, je vulgarise, mais c'est du bonbon pour eux. Et c'est dans les villes, souvent. Donc, la valeur potentielle de revente, évidemment, de ces terrains-là, elle est énorme. Un golf, par exemple, le cas de Rosemère, on parle, par exemple, de près de l'équivalent de 120 terrains de football américain. Donc, c'est énorme. C'est 64 hectares. 6 500 000 pieds carrés. Vous pouvez imaginer les profits qui viennent avec la construction et la vente de condos ou autres.
Donc, l'investissement initial du promoteur est rapidement décuplé et multiplié à partir du moment où il peut vendre des habitations sur ce terrain-là.
En ce moment, c'est comme une maladie, là. C'est comme contagieux. Aussitôt qu'il y a un espace vert, il faut que les contracteurs mettent la main dessus.
Le golf à Rosemère a été vendu 18 millions. Et là, tout à coup, ce terrain-là vaudrait, ça vient de grimper à 126 millions. Il y a quelqu'un quelque part qui se graisse la patte là-dedans.
Parce que De loin, on pourrait penser que c'est dérisoire, un terrain de golf. Qu'est-ce que vous dépensez autant d'énergie, autant de salive pour pas que ce terrain-là soit bâti?
Ouais, faut comprendre qu'en termes de superficie, c'est près de 1,5% de la région métropolitaine de Montréal qui est couvert par ces golfs-là et anciens golfs.
Donc c'est conséquent, quoi.
Ben, c'est conséquent et c'est surtout énorme dans l'optique où on sait qu'il faut réduire nos émissions rapidement, qu'il va falloir s'adapter. Et le moins on va réduire, le plus on va souffrir parce qu'il y a une limite au-delà de laquelle on peut pas s'adapter. Et au Québec, déjà, aujourd'hui, au moment où on se parle, les municipalités du Québec, les villes, ont fait une étude avec Uranos, un think tank québécois, sur quel est le coût actuel des impacts des changements climatiques et le coût d'adaptation. Ils ont chiffré à 2 milliards par année l'argent nécessaire pour les municipalités. Au moment où on se parle aujourd'hui, qui avec l'augmentation des événements climatiques extrêmes qui frappent déjà le Québec, que ce soit inondations, sécheresses, canicules, tempêtes, érosion des côtes, ouragans ou queues d'ouragans qui frappent dans l'Est, avec une réalité au Québec où le Québec se réchauffe en moyenne 2 fois plus rapidement que la moyenne mondiale. À l'extrême nord, même, c'est presque 3 fois plus rapide que la moyenne mondiale, le réchauffement qu'on subit, avec les impacts, évidemment. Donc, il y a une nécessité à mener tous les combats partout, à tous les niveaux. Et ça, ça implique de commencer par les endroits où on a probablement le plus de poigne au niveau municipal, où c'est de proximité, c'est concret pour les gens. Et ce genre de combat-là est aussi important que les grands combats pour la protection des grandes forêts à travers le monde, en ce sens qu'il va falloir faire des gains à tous les niveaux et ça permet aux gens de facilement s'impliquer parce que ça les touche directement également. Ils voient le bénéfice pour leur personne.
Et voilà comment on se retrouve à parler de catastrophes climatiques globales et de changements radicaux de système au bord d'un parking, d'un terrain de golf à moitié abandonné de la banlieue nord de Montréal. Et c'est intéressant de faire le micro et le macro, parce que c'est ça que ça raconte, c'est une même problématique.
Absolument. L'expression anglaise, c'est quoi? C'est « think globally, act locally ».
Penser global, agir local.
Mais donc c'est ça, ici l'exemple, c'est un exemple de prise en charge par les citoyens d'un projet collectif qui les motivait dans un contexte d'adaptation au changement climatique et de prise de conscience aussi de notre place dans l'environnement.
Faudrait que je fasse appel à vos compétences de chercheur biologiste parce que votre boulot, c'est de travailler sur la dépollution des sols.
Exactement. Ma spécialité, c'est décontaminer des sols. Tirer profit de plantes qui peuvent extraire des métaux lourds ou dégrader des contaminants dans le sol, mais aussi stimuler l'activité microbienne du sol, comme les bactéries et les champignons, pour dégrader ces polluants-là.
Donc ça, c'est un métier plein d'avenir, par les temps qui courent.
Heureusement et malheureusement, selon comment on regarde, oui.
Parce que on est devant un magnifique espace vert avec des beaux arbres chargés des couleurs d'automne. Mais ce terrain vert, eh ben, il n'est pas si vert que ça. Ces sols qu'on voit devant nous, là, ces greens, ces pelouses, ces fairways, ces parcours, ils sont hautement pollués.
Il faut savoir que les golfs, pour qu'ils soient si beaux avec des greens, des verts, ben, il faut que ce soit entretenu. Puis malheureusement, ben, cet entretien-là, ça inclut pratiquement toujours l'application de pesticides, donc des herbicides, des fongicides.
Du glyphosate et tout ça?
Tout a été utilisé sur les anciens golfs, y compris des choses qui ne sont permises que sur les golfs et qui ne sont plus utilisées maintenant parce qu'ils étaient trop toxiques dans les décennies passées. Ah, il y a des contaminants qui contenaient de l'arsenic au mercure, et au manganèse, des métaux lourds, des choses comme ça qui étaient utilisées pour empêcher le développement des mauvaises herbes, par exemple, surtout sur les tertres de départ et sur les verts. Donc, ça représente les tertres de départ et les greens, les verts. Donc, c'est choses qui sont interdites maintenant, mais qui se retrouvent encore dans les sols, en dessous des beaux parterres verts et des arbres que l'on peut voir en ce moment. Malheureusement, l'environnement est encore contaminé.
Allez, moi, ce que j'apprends à cette occasion, c'est qu'en fait, le golf, c'est pas très écolo, en fait.
Ben, je dirais que non. C'est un peu comme un jardin qui est maintenu artificiellement ou de l'agriculture très intensive. La nature, ça ressemble pas à un golf.
Sortez golfer, vous n'allez pas regretter. Ça prend ton sac, tes balles, souliers. Sans oublier un petit drink pour s'hydrater. Ça prend un peu, en fait, beaucoup de pratique, mais un coup de commencer. Je voudrais surtout pas décevoir tes bons chums. Ah ouais, au champ de pratique, c'est là que ça commence, les birdies, sortez golfer.
Alors si je reviens, disons, dans 2-3 ans, dans ce golf, ce futur ex-golf de Rosemère, ici, au nord de Montréal. Comment ça pourrait être? Qu'est-ce que ça pourrait devenir?
On ne s'attend pas à ce que ça soit un environnement bichonné, seulement de la pelouse entretenue, coupée toutes les semaines. Donc, il y aura une partie sauvage. Ça serait un lieu... Bon, je rêve tout haut, là. Ça pourrait être un lieu où la nature sauvage est revenue, où la biodiversité augmente, où il peut y avoir des espaces qui peuvent être utilisés, par exemple, pour des jeunes, des familles, pour se réunir, en faire un lieu de plein air, un joyau naturel plutôt qu'un autre quartier banal comme on en trouve malheureusement trop dans les banlieues nord-américaines.
Bon ben pourvu que ça marche alors, je peux que vous le souhaiter.
Ben, il y a encore beaucoup de travail à faire.
Merci beaucoup à tous les deux.
Un plaisir. Merci.
Et là, je vois, c'est qui? C'est quoi? Il y a des gens qui se baladent là-bas?
Il y a des gens, là.
Il y a du monde qui...
C'est scandaleux. Moi, j'étais obligé d'aller dénoncer, là. Ils n'ont pas le droit d'être là.
On vous laisse cette partie.
Bonjour. Je peux vous embêter deux minutes?
Moi, c'est Janice.
Janice?
Gabrielle.
Gabrielle. Bonjour, toi. Oh, il est mignon, lui. C'est la balade en famille, c'est ça?
Oui,
c'est ça.
Vous habitez ici, à Rosemère?
Oui, ou... pas loin, juste. L'autre bord du golfe.
L'autre bord du golfe, ouais. derrière les jolis saules pleureurs.
Exact.
Et on a le droit d'être là ou pas, je me demandais?
Officiellement, je suis pas certaine. Probablement pas. Mais quand on est du coin, ben il y a des façons... quand même d'accéder.
C'est ça.
On continue notre tradition de passer du temps ici en famille.
Et alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce qu'il y a toute une mobilisation, tout un collectif de riverains qui se bat pour soustraire ces terrains à l'appétit des promoteurs qui voudraient y faire des résidences privées.
Moi, je suis entièrement pour la protection du golfe, des espaces verts. C'est vraiment important pour la biodiversité. La quantité d'oiseaux, d'espèces différentes qu'on voit dans notre cour, c'est à cause du golfe à côté. Puis aussi, les îlots de chaleur, c'est très important d'avoir des îlots de fraîcheur, parce que juste l'autre côté, c'est plein d'îlots de chaleur.
Oui, tout autour, c'est...
les centres d'achat et tout ça, les stationnements, c'est tout...
C'est les grands parkings, oui. Enfin, les grands stationnements, faut parler français ici, c'est vrai.
Oui.
Des grands stationnements...
Les stationnements, exact.
Dans les centres commerciaux,
oui. Oui.
Oui, donc vous êtes bien au courant de ce qui se passe.
Oui, 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 vraiment.
C'est pour ça que vous emmenez vos petits-enfants, petites filles.
Ils n'ont pas le droit de creuser dans le sol, par exemple.
Oui, parce que c'est ce que là, j'étais avec un chimiste, un biochimiste, qui m'expliquait que là-dedans, il y a de l'arsenic, du mercure, du cadmium, et je ne sais pas...
C'est mieux l'hiver, quand il y a la couche de neige par-dessus.
Vous aviez envie de jouer au golf avant ou pas?
Non.
C'était pas votre truc?
Non, c'était pas mon sport. Nous, on avait les balles de golf dans notre cour.
Oui, oui. Avec qui vous intéresse.
Ça, c'est à peu près tout.
Et alors, vous êtes un golfeur, monsieur?
Oh non, pas du tout. Non, ben merci.
Dernier rebondissement depuis notre passage à Rosemère. Quartier Melrose, le promoteur immobilier contre lequel se mobilisent nos amis, sort maintenant l'artillerie lourde et réclame près de 200 millions d'euros à la ville, le comté et la communauté métropolitaine quand je vous disais que c'est une véritable guerre des golfs.
Pourquoi faire aujourd'hui que tu pourrais faire demain? 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 Que tu pourrais faire demain? Du bénévolat, on va-tu prendre un café, on va-tu prendre une drink? Je pourrais prendre une marche, il fait beau soleil, sortir dehors, ça me ferait pas tôt. Regarder une série, peut-être une deuxième, me couler un bain, me semble je le mérite. Pourquoi faire aujourd'hui que tu pourrais faire demain? Pourquoi faire aujourd'hui que tu pourrais faire?
Je reviens du monde d'avant.
Suite de notre tour d'horizon du Montréal qui essaye de se verdir pour faire face aux enjeux climatiques et environnementaux. Et je vous avoue qu'il y aura du boulot parce que
Encore une fois, on se retrouve dans un environnement bétonné, sur un bord de parking, au bord d'une route l'équivalent d'une nationale. Et on est cette fois-ci à Brossard, pas très loin de Candiac d'ailleurs, sur la rive sud du Saint-Laurent. Et c'est ici qu'on a rendez-vous pour faire sauter les pavés. Alors c'est pas vraiment mai 68, mais ça commence à y ressembler, puisque c'est une initiative qui s'appelle « Sous les pavés ». Et là, je m'approche en bout du parking d'un centre médical.
Exactement.
Et alors là, on voit des gens qui sont les mains dans la terre.
Oui, oui, c'est la journée de plantation. Donc, on a tout l'espace en terre. Là, ça a été dépavé il y a 2 semaines.
Et c'est ce qu'on appelle ici la déminéralisation.
Oui, exactement. Bien, c'est un enjeu. Les villes sont beaucoup trop artificialisées. Là, on a 75 % du territoire des municipalités au Québec qui sont artificialisées. Donc ça, ça a un grand impact sur la gestion des eaux de pluie. Mais aussi, ça va créer des îlots de chaleur. Comparé à un espace vert et un stationnement, le stationnement peut être 12 degrés au-dessus. Donc, c'est quand même une grande différence. Puis ça, ça a des impacts sur la santé, là, surtout chez les personnes plus vulnérables.
Le programme s'appelle « Sous les pavés ».
Sous les pavés, oui. Sous les pavés, pourquoi? Ben justement, on enlève les pavés, puis on libère le sol de l'asphalte. On libère les végétaux des surfaces imperméables.
Et là, il y a une quinzaine de personnes qui sont en train de s'activer, à planter. Là, il y a 2 messieurs qui amènent un grand seau avec un petit arbuste, là, qui doit faire 2-3 mètres de haut. Alors pour finir cette balade avec ceux qui veulent verdir Montréal, nous voici donc sur un parking, un stationnement comme on dit ici en bon français. Parce que les Montréalais ont le seum. Pas le seum avec un S comme chez nous en France, mais le seum avec un C comme Centre d'écologie urbaine de Montréal. C'est l'organisation qui coordonne cette action citoyenne de déminéralisation dans le cadre de son programme de ville écologique et qui a déjà bousillé du bitume dans une quinzaine de sites autour de Montréal depuis 2017 jusque dans des cours d'école comme à Longueuil avec encore 18 autres lieux qui sont à l'étude pour la deuxième phase du projet. Et si c'est peut-être un détail pour vous, ce recul même modeste de l'artificialisation des terres, ici, ça veut dire beaucoup.
Ok, moi je suis Caroline Lebar, du coup je suis chargée de projet en changement climatique au Conseil régional de l'environnement de la Montérégie.
Et alors du coup là vous avez coupé un bout du parking.
Exactement, on a enlevé 5 places de stationnement. Il y a 2 semaines on a fait le dépavage à la main. Et je te dis, l'asphalte, là, c'était ça, des grosses dalles. Ça, il y avait du gravier qu'on a tout enlevé. Puis c'est moi avec mes collègues, là, on a rajouté 18 verges de terre. C'était peut-être plus de 10 tonnes. Là. Non, mais j'étais au bout de ma vie lundi dernier, là. J'étais comme, c'est pas vrai. Fait que, on a tout rajouté. Puis non, tout le monde était bien content. Il y avait bien hâte de planter puis de voir ce que ça allait donner. Fait que, bon, il n'y aura pas de l'ombre tout de suite avec les arbres. Mais bon, au moins, tu sais, ça sera toujours... ça va être plus agréable. Fait que c'est ça.
Ouais.
Pas mal.
C'est un début, disons.
C'est ça. C'est sûr que c'est pas, ça va pas changer le monde, là, mais c'est un début. Puis c'est ça, je pense qu'il faut des petits projets comme ça pour montrer que c'est facile, puis que c'est possible, en fait, puis que c'est accessible pour tout le monde, là, pour justement un peu lancer l'engrenage, là, puis que tout le monde s'y mette.
Parce que c'est vrai que si on se retourne de l'autre côté, bah voilà, c'est un stationnement, c'est comme vous dites, nous on dit parking, mais...
Je le sais bien. Mais non, c'est des grosses mares de stationnement qui font des gros îlots de chaleur du coup. Tu sais, l'été, c'est ça, le soleil qui tape sur l'asphalte, c'est sûr que fait chaud. Là. Tu sais, surtout qu'on nous a dit, oh ouais, mais parce que moi au début, je voulais faire beaucoup plus, là, tu sais, si j'avais
eu le
financement.
Ouais.
Mais tu sais, c'était comme, oh ben non, les gens pour se garer, le stationnement est plein. Tu sais, là, on a bouché pas mal de places de parking.
C'est un peu pour désintoxiquer les gens aussi de leur addiction. Je monte dans mon char et je vais faire des courses et je remonte dans mon char.
Ah, on aimerait ça, mais ça, c'est des habitudes tellement difficiles à changer. Je travaille aussi un peu en mobilité. Puis, tu sais, on le voit que quand on aborde ce sujet-là, les gens sont pas prêts, tu sais, à changer leurs habitudes. Ils sont vraiment pas prêts à entendre des discours un peu différents. Ils sont ben dans leur maison de banlieue avec leur gros pick-up. Ils n'ont pas forcément besoin de pick-up, mais comme.
Et pourtant, ici aussi, il y a vraiment la prise de conscience de l'urgence climatique et de la nécessaire adaptation.
Ah, oui, bah, absolument. Puis, je suis quand même optimiste pour la suite. Mais là, c'est ça, tu sais, on va avoir comme de la verdure. C'est sûr que, tu sais, même au niveau, tu sais, des eaux de pluie, tu sais, ça va éviter de s'accumuler partout, de faire des grosses flaques, des grosses inondations. Tu sais, l'eau va s'infiltrer, il n'y aura pas de ruissellement. Au niveau des îlots de chaleur, pareil, tu sais, ça va, c'est sûr que ça va pas changer tout, là, mais comme, au moins, tu sais, un peu plus de verdure, là, ça fait toujours du bien.
Et alors, qu'est-ce qu'on est en train de planter, là?
Ah, mon Dieu, on en plante bien des affaires, j'ai pas les noms de tout, mais en tout cas, on a des arbustes pas mal indigènes du Québec, on a de l'aronie, du cornus, pour les arbres, on a deux érables, dont celui-là qui va être super beau et, beau et bel érable rouge.
Ah ouais, c'est vrai que comme c'est l'automne, là, il reste deux feuilles dessus.
Ça, on les voit, elles sont cute.
On voit les deux feuilles rouges du drapeau canadien.
Ouais, on a un petit pommetier aussi, puis on a un amélanquier aussi là-bas. Puis au milieu, c'est ça, c'est des vivaces, donc on va avoir de la gastage, de la monarde, de l'orpin, je pense. Puis quelques émérocales, fait que ça va faire des belles couleurs partout, ça va être bien joli, ouais. Je pense. Bien contente. Mais ça s'est bien passé, je suis pas contente. Ouais.
Bon, bah, je vous laisse aller bosser parce que là, il y a encore du travail.
Oh, moi, je regarde. Je suis l'inspectrice des travaux.
Alors, j'essaie de pas marcher sur les plantations. Je connais aucune de ces plantes. Et ce qui est rigolo, c'est juste derrière, il y a une palette où ont été posés des rouleaux de gazon. Comme des tapis qui ont été roulés avec un peu de terre et qui, je l'imagine, vont être dépliés derrière. Hop, j'enjambe les fleurs. Bonjour.
Bonjour.
Comment vous appelez ?
Marie-Lienne.
Et Marie-Lienne, vous, oui. Vous êtes une bénévole ?
Absolument, je suis bénévole. Moi, je suis psychologue à l'équipe santé mentale adulte. Donc, on vient prendre nos pauses, on vient parfois manger dehors le midi avec les collègues. Et bien, on est très heureux que ce soit plus vert que les dernières années. Un petit peu moins de stationnement, un petit peu plus de verdure. Donc, c'est la première fois que je plante des arbres ou des plantes de ma vie. Alors, je suis très heureuse. Puis, on va les voir pousser année après année. On fait le sacrifice de perdre quelques places de stationnement pour avoir un peu plus de verdure.
Je sais qu'on a du failli, mais...
Collectivement, là, on ne peut pas continuer à étendre les banlieues, étendre les centres d'achat. Et je suis en fait convaincue que les gens, c'est pas ça qu'ils veulent. L'immense majorité des gens, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent des relations de qualité avec leurs proches. Ils veulent des activités où ils peuvent être ancrés dans le moment présent. Ils veulent un plaisir, mais il y a différents types de plaisirs. Hein. On n'est pas à aller dans les plaisirs de consommation, de matérialisme. C'est une roue sans fin de vouloir plus puis de n'être jamais satisfait, jamais heureux. Donc, ça mène à un sentiment d'insatisfaction permanente. À bâtir, là, surtout bâtir du trop gros. On a besoin d'apprendre à se restreindre et à être bien là-dedans sans se sentir justement restreint.
Merci beaucoup. Bon, je vous laisse jardiner. Bonne continuation. Bonjour. C'est vous, Marie-Josée, non?
Oui.
On m'a dit que vous étiez l'horticultrice.
Moi, je suis ici pour montrer à tout le monde comment planter les végétaux comme il faut.
Oui, parce que ce n'est pas des professionnels, ces gens-là.
Non, c'est des bénévoles. C'est vraiment génial, là. Des projets communautaires, ça implique les gens. Puis
j'imagine une horticultrice de voir un gros stationnement en béton remplacé par de la terre. Là, on sent au fur et à mesure que les gens sont en train de retourner la terre, on sent la bonne odeur de terreau et d'humus.
Mais c'est parce qu'on est quand même en banlieue, là, mais... Il n'y a pas beaucoup de gens qui jardinent, là, qui jouent dans la terre puis tout ça. Alors, c'est une bonne expérience pour tout le monde.
Oui, d'ailleurs, on entend les gens qui rigolent derrière.
Oui, c'est ça.
C'est un peu comme des gamins qui jouent.
Mais moi, je fais ça à tous les jours, à tous les semaines. Alors, c'est un petit peu différent, là, mais oui, non, ben, ils ont l'air d'avoir beaucoup de plaisir.
Bon, ils s'y sont bien pris, là. Alors, ils ont fini de planter l'érable.
Oui.
Il est droit.
On a encore de la terre, par exemple.
Bah, dites-leur, parce que sinon... Il...
Oui, c'est ça.
Une note positive et bien canadienne pour finir avec cet érable planté à la place d'un parking. Une petite histoire de chez nos cousins d'outre-Atlantique qui nous raconte quelque chose de l'air du temps sur l'intrication des problématiques sociales et environnementales avec ceux qui essayent de penser l'adaptation au changement climatique et ceux qui essayent de penser à autre chose. Merci donc à toutes et à tous, à Marie-Ève, Catherine, Janice, Caroline, Yves, Patrick et Frédéric. La guerre des golfs à Montréal, un reportage réalisé par Clément Nouguier avec Vincent Désière à la technique aujourd'hui que vous pourrez retrouver en podcast avec toutes les autres étapes sur France Inter.fr. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour changer complètement de paysage, puisqu'on ira retrouver la primatologue Sabrina Krief avec les chimpanzés de la forêt de Sébitoli en Ouganda.